Les mystères du Palais Royal, deuxième partie, un fils d'adoption. Chapitre 7, le départ. Raoul, en sortant du château, se dirigea vers l'humble cimetière du village qui s'étendait autour de la petite église. Il attacha son cheval par la bride au tronc de l'un des grands arbres qui croissait devant la porte de cette église. Puis il entra dans le cimetière. La fosse à peine refermée du marquis Réginald avait été creusée à côté de celle de ses ancêtres. Et sur chacune des pierres tumulaires se voyaient, gravées en creux, les armes de la Tremblée, des inscriptions et des devises. Mais comme le temps avait manqué pour préparer une nouvelle pierre, la tombe du marquis ne se reconnaissait qu'à l'éminence de terre fraîchement remuée qui la recouvrait. Raoul s'approcha de cette sépulture. Il venait dire un dernier adieu à celui qui, pendant tant d'années, avait été son ami et son père. Le jeune homme s'agenouilla. Raoul n'était point religieux, et c'est à peine s'il était croyant. Mais qui donc, penché sur cette terre humide qui nous sépare à tout jamais de ceux que nous avons aimés, qui donc oserait douter de l'immatérialité de l'âme, de son immortalité et de la toute-puissance divine? Un semblable doute en face d'un tombeau ne serait-il point un outrage à l'humanité tout entière? Et comment supposer que celui qu'on pleure, créature noble et intelligente, a péri tout entier dans la mort, et qu'il n'en reste qu'une dépouille vile que les vers se disputent déjà? Non, en présence d'un cercueil que quelques pelletées de terre viennent à tout jamais de séparer du monde, les matérialistes les plus endurcis abjurent pour un instant leur funeste système. Et ce qui leur paraissait le plus haut terme de la raison humaine leur en semble le suprême abaissement. Ce sentiment dont nous venons de parler, Raoul le ressentit dans toute sa puissance et s'y abandonna docilement. Des prières ferventes s'échappèrent de ses lèvres, tandis que des larmes coulaient de ses yeux. Puis, il lui sembla que sa prière et sa douleur évoquaient en quelque sorte la grande âme de Réginald, que cette âme se mettait en communication avec la sienne et se trouvait là pour l'écouter. Il lui parla tout bas. Il lui dit comment lui, Raoul, venait d'être chassé de ce château et de cet héritage que Réginald lui destinait. Il lui demanda de veiller sur sa vie sans but et sans espoir désormais, et il remit son avenir entre ses mains. Puis, commandant à son émotion qui grandissait de minute en minute, il se releva en s'écriant « Adieu, adieu mon père !» Il sortit du cimetière et il détacha son cheval. À quelques centaines de pas de l'église se trouvait un monticule boisé, d'où l'on dominait une assez grande étendue de pays et derrière lequel passait la route d'Abbeville. Raoul se dirigea du côté de ce monticule. Quand il en atteignit le sommet, il s'arrêta et se retourna. Il eut alors en face de lui le parc de la Tremblée et le vieux manoir qui profilaient au-dessus des grands arbres ses tourelles féodales. Le soleil venait de se coucher derrière des nuages qu'il avait teints d'une nuance sanglante. Sur ce ciel pourpre et lumineux, les masses du château se dessinaient en noir. Un sourire amer plissa les lèvres de Raoul. « C'est bien cela, » murmura-t-il en étendant sa main vers le ciel et vers le château. « Le deuil, le sang et le feu, voilà ce que je veux. Voilà ce que je rêve. Voilà ce que j'apporterai ici. » « Ah, monsieur le vicomte, monsieur le vicomte, je vous ai dit que vous me reverriez un jour. Priez Dieu que ce jour n'arrive pas bientôt. Ce n'était point assez pour vous de me reprendre lâchement ce qui m'appartenait par la volonté de celui qui n'est plus. Il vous fallait encore me chasser et m'insulter en me chassant. Nous avons un compte terrible à régler ensemble, monsieur le vicomte. Le jour où nous nous reverrons, vous maudirez cet héritage et vous me crierez grâce. Mais vous avez été sans pitié, je serai sans pitié. Au revoir, monsieur le vicomte. Au revoir. » Puis Raoul, s'élançant sur son cheval dont il tourna la tête du côté opposé à celui par lequel il était venu, piqua les deux et s'éloigna au grand galop. Où Raoul allait-il? Il ne le savait pas. Il ne se l'était pas encore demandé. Le mouvement de sa course rapide et la brise du soir, frappant son front brûlant, mirent un peu de calme dans ses idées. Quand il eut franchi environ 3 lieues, il ralentit l'allure de son cheval et se mit à réfléchir. Avant toute chose, Raoul voulait s'éloigner de la Tremblay. Sa famille existait encore, mais pouvait-il demander un asile à ceux qu'il avait dédaignés au temps de sa splendeur et que d'ailleurs il n'aimait pas? Pouvait-il surtout, lui, l'orgueil incarné, se résigner à porter le nom obscur de Raoul Rigaud dans ce pays où, 3 jours auparavant, chacun le considérait comme le futur marquis de la Tremblay? Sans doute, presque tous les gentilshommes qu'avaient réunis au château les funérailles de Réginald lui avaient témoigné un profond intérêt en prenant son parti contre le vicomte de Jacmay. Sans doute, tous ces gentilshommes lui accorderaient de grand cœur l'hospitalité de leur toit. Mais n'aimerait-il pas mieux mourir que d'être reçu comme un inférieur chez ceux-là dont il s'était cru l'égal? Raoul se dit tout cela avec une poignante amertume, et pendant un instant, le désespoir déborda dans son cœur. Il se sentit seul sur la terre, isolé, perdu dans le monde. La nuit était descendue par degrés. Autour de lui, la campagne était déserte et silencieuse. Cette obscurité, cette solitude, lui parurent être l'image de sa vie. Ses pensées le désespérèrent à un tel point qu'une véritable défaillance s'empara de lui et qu'il chancela sur son cheval. Une de ses mains s'attacha au pommeau de la selle, tandis que l'autre se portait instinctivement en arrière. Cette main heurta la valise qui rendit sous le choc un son métallique et prolongé. Raoul se souvint alors qu'il emportait avec lui une somme importante. Seulement, il ignorait le chiffre de cette somme. Tout n'était donc pas perdu, car le jeune homme n'ignorait point qu'avec de l'or, on vient toujours à bout de se tirer d'affaire. En même temps, une voix intérieure cria à Raoul que s'il pouvait trouver quelque part un soulagement à ses chagrins, ce serait à Paris. Paris, cette ville magnifique dont il avait entendu conter tant de merveilles. Son parti fut pris aussitôt. « J'irai à Paris, se dit-il. » Mais comme, avant d'arriver dans la grande cité, il fallait accomplir un long voyage et qu'il était d'urgence de trouver pour ce soir-là un souper et un lit, Raoul éperonna de nouveau Bayard, qui repartit au galop. Après 1 heure et demie de cette course impétueuse, Raoul vit étinceler à une faible distance les lumières d'un grand nombre de maisons. Il était aux portes d'Abbeville. Il remit son cheval au pas et ne tarda point à franchir le seuil d'une assez bonne hôtellerie à l'enseigne des 3 couronnes. Les palefreniers s'emparèrent aussitôt de Bayard et Raoul leur recommanda d'avoir bien soin du noble animal qui, quoique blanc d'écume et couvert de sueur, hennissait fièrement et fouillait les pavés de la cour du bout de son sabot léger. Le jeune homme déboucla lui-même la précieuse valise qui contenait toute sa fortune et toutes ses espérances. Il la chargea sur son épaule et il entra dans l'intérieur de l'hôtellerie pour demander qu'on lui donnât une chambre et qu'on lui servît à souper sur le champ. Nous savons que Raoul, en outre de ce qu'il était très beau, avait la tournure et les manières les plus aristocratiques qu'il fût possible d'imaginer. Aussi, quoiqu'à cette époque un gentilhomme qui se respectait ne voyagea guère sans être accompagné de 2 laquais au moins, l'hôte, l'hôtesse et tous leurs gens s'empressèrent à servir ce jeune cavalier, vêtu de grand deuil et pourvu d'une si haute mine. En un clin d'œil, la plus belle chambre fut préparée. Comme les soirées étaient fraîches, on alluma dans la cheminée de cette chambre un feu clair et pétillant. La broche de la cuisine tourna et les casseroles commencèrent sur les fourneaux leur petite chanson monotone. Raoul était triste. Mais il était jeune. Les douleurs morales ne pouvaient endormir tout à fait le vigoureux appétit de son âge. Aussi, les savoureuses odeurs du rôti et des ragoûts, qui ne tardèrent point à monter jusqu'à lui, lui causèrent une sensation agréable. Cette sensation, jointe au bon accueil qui venait de lui être fait et aux marques de considération qu'on lui prodiguait, rassérénèrent un peu l'esprit de notre héros et le disposèrent à jeter sur l'avenir un regard moins désolé. Chapitre 8. L'orphelin. Raoul avait donné ordre qu'on le servît dans sa chambre, et le but de cet ordre était de ne point se séparer de son trésor. Le souper parut. L'hôte s'était surpassé, et les plats qu'on plaça successivement devant le jeune homme étaient autant de chefs-d'œuvre culinaires. Raoul soupa donc, et soupa bien, quoique parfois une pensée amère fit retomber sa main au moment où elle allait s'approcher de ses lèvres. Aussitôt après avoir achevé son repas, il alla pousser les doubles verrous de la porte de la chambre, il ouvrit sa valise et il en étala le contenu sur une table. Il fut ébloui de la quantité d'or qu'elle contenait. Jamais il n'avait attaché la moindre importance à cette fortune qui, relativement à la richesse du marquis Réginald, n'était qu'une goutte d'eau dans la mer. Pendant un instant, il regarda les feux de la lumière sur ce monceau brillant. Le cordon de chaque pièce de monnaie recevait une étincelle et la renvoyait en pluie étincelante. Le glorieux profil de Louis XIV étincelait sur les doubles louis. Puis, il se mit à compter les pièces d'or. Il y en avait un peu plus de 1200. Comme ces monnaies étaient de valeurs inégales, les unes de 24, les autres de 48 livres, cela faisait un total de 40 000 livres environ. C'était certes bien peu pour Raoul, qui avait rêvé les 100 000 écus de rente des domaines de la Tremblay. Mais enfin, avec cette somme, il était impossible de mourir de faim, pendant quelque temps du moins. Raoul avait aussi des bijoux, mais il ne se rendait nullement compte de leur valeur. Et d'ailleurs, son projet était de les garder, en mémoire de Réginald, de qui il les tenait. Notre héros remit tout son or dans la cassette qu'il referma et qu'il plaça sur sa table de nuit, auprès de son lit. Ceci fait, Raoul s'assura que ses pistolets étaient chargés. Il en visita soigneusement les amorces et il les posa sur la valise comme de fidèles défenseurs. Ensuite, il se coucha et, brisé par la fatigue et les cruelles émotions de cette journée et des précédentes, il ne tarda pas à s'endormir. Son sommeil fut plus calme qu'il ne l'aurait espéré. Quand il se réveilla, la matinée était déjà assez avancée. Il se leva aussitôt, déjeuna légèrement, paya sa dépense et se remit en route. Raoul avait calculé qu'il lui fallait environ 4 jours pour arriver à Paris, sans épuiser son cheval et sans se mettre lui-même sur les dents. Il chemina donc à l'allure la plus modérée, et il put se livrer ainsi tout entier aux méditations que lui inspirait sa situation présente et aux pensées qui l'assiégeaient. Entre autres choses, Raoul se demandait quel était le plus utile emploi qu'il pourrait faire de ses 40 000 livres. Après s'être longuement consulté et avoir à 100 reprises discuté avec lui-même, Raoul finit par se dire que le parti le plus sage était assurément d'acheter une sous-lieutenance et d'entrer comme un cadet de bonne maison au service de Sa Majesté. Nous savons depuis longtemps que le métier des armes plaisait à notre héros. Et d'ailleurs, sa jeune et brillante imagination lui persuadait facilement que l'épée du petit officier pourrait un jour, entre ses mains, devenir un bâton de maréchal de France. Et puis, il lui semblait que le marquis Réginald applaudirait du haut du ciel à sa détermination. Après avoir ainsi décidé de son avenir, Raoul se trouva plus tranquille. 2 journées se passèrent sans amener un seul incident qui mérite d'être rapporté ici. Le matin du 3e jour, 2 heures environ après être sorti de l'hôtellerie dans laquelle il avait couché, Raoul se trouva au pied d'une montée tellement longue et tellement ardue qu'il mit pied à terre et laissa Bayard le suivre en liberté pour la gravir. Arrivé au sommet de cette côte difficile, le fils du braconnier s'arrêta un instant et regarda avec enthousiasme l'immense et magnifique panorama qui se déroulait à perte de vue devant lui. Au moment où il s'apprêtait à remonter à cheval, il vit à 10 pas de lui un jeune paysan, presque un enfant, assis au bord de la route sur le talus d'un fossé. La figure de cet enfant, qui semblait avoir 14 ou 15 ans tout au plus, était intelligente et douce, mais d'une pâleur livide. Ses traits contractés et le contour marbré de ses yeux témoignaient d'un état maladif et d'une souffrance continue. Il appuyait fortement sa main droite sur sa poitrine oppressée, comme pour y étouffer une douleur aiguë. Ce paysan était vêtu d'une blouse grossière en étoffe bleue tout usée. Son pantalon de drogué, élimé et déchiré par l'usage, laissait ses jambes à moitié nues. Ses pieds étaient chaussés de lourds sabots. Quand il s'aperçut que Raoul le regardait avec attention, il baissa vivement les yeux et une assez vive rougeur vint colorer ses traits. Son visage révéla les symptômes non équivoques d'une violente lutte intérieure. Puis enfin, il éloigna de sa poitrine la main qui la pressait et il étendit cette main vers Raoul en murmurant d'une voix étouffée ces mots déchirants.
J'ai faim.
Raoul s'approcha de l'enfant et lui présenta une pièce de monnaie. Le petit paysan la prit vivement et la baisa en s'écriant
« Ah, monseigneur, que Dieu vous bénisse! Je ne mourrai pas aujourd'hui. »
« Que parlez-vous de mourir, mon enfant ? » dit-il. « Vous êtes donc bien pauvre et bien malheureux ?»«
Oui, monseigneur, bien pauvre et bien malheureux. »«
Vous n'avez pas de pain ?»«
Je n'ai pas mangé depuis avant-hier, monseigneur. »
« Oh mon Dieu !» murmura Raoul en prenant à l'arçon de sa selle une petite gourde pleine d'eau-de-vie et en la présentant au jeune paysan, qui but avec avidité et sembla revivre aussitôt. Raoul continua ses questions. « Vous n'êtes donc pas de ce pays ? » demanda-t-il.
« Je suis de 6 lieues d'ici, monseigneur. »«
Pourquoi avez-vous quitté votre village ?» L'enfant se mit à pleurer au lieu de répondre. « N'avez-vous point de parents ?»«
Je n'en ai plus. » balbutia l'enfant.
« Vous êtes orphelin ?»«
Je n'ai jamais connu ma mère. Mon père est mort il y a 8 jours. »«
Et alors, vous êtes parti ?»«
Il le fallait bien, monseigneur. »«
Pourquoi ?»«
Mon père avait une maison et 2 petits champs. Il les cultivait, je l'aidais de mon mieux, et nous vivions de leur profit. Mais voilà que mon père est mort. Des gens à qui il devait quelque argent ont pris la maison et les 2 champs. Et ils m'ont chassé. Je ne voulais pas mendier. J'ai demandé du travail. On m'a dit que j'étais trop petit et que j'étais trop faible. Alors, je suis parti. Je suis venu jusqu'au bord de ce fossé. Je m'y suis assis hier, pensant y mourir. Vous êtes venu. Je souffrais tant que le courage m'a manqué et que je vous ai tendu la main. Je vais acheter du pain et je vivrai encore aujourd'hui. Mais demain, vous ne passerez pas, monseigneur. Et je mourrai demain. »
Cette histoire si simple et si déchirante remua profondément toutes les fibres du cœur de Raoul, car cette histoire, à la différence près de misère et de douleur, était aussi la sienne. Raoul compara sa situation à celle de ce malheureux enfant. Il se trouva presque heureux en face d'une telle infortune. « Allons, se dit-il, je vais tendre la main à cet enfant, comme le marquis Réginald me l'avait tendue autrefois. Cela me portera peut-être bonheur. » Puis il reprit à haute voix. « Comment vous nommez-vous, mon ami ?»«
Je m'appelle Jacques, monseigneur. »«
Quel âge avez-vous ? » ?»«
14 ans. »«
Eh bien, Jacques, je ne veux point que vous mouriez demain, ainsi que vous le disiez tout à l'heure. Tout le monde vous a repoussé, moi, je ne vous repousserai pas. Vous n'aurez plus besoin de mendier, et si vous voulez me suivre, vous ne manquerez plus de pain. »«
Vous suivre, monseigneur ?»
s'écria l'enfant avec une expression de joie ardente mêlée d'un peu de doute.
« Est-ce possible ?»«
Oui, » dit Raoul, « j'offre de vous emmener avec moi. » Chapitre 9. Jacques. L'enfant se jeta à genoux. Ses lèvres remuèrent. On voyait qu'il remerciait Dieu mentalement. Puis il saisit la main de Raoul et la couvrit de baisers, en balbutiant des mots inintelligibles, mais dans l'accent desquels la reconnaissance éclatait. Notre héros, en se voyant ainsi remercié, en se trouvant protecteur à son tour, en relevant l'enfant agenouillé qui lui devait la vie, en devinant qu'il venait de s'attacher à tout jamais une âme, se sentit grandir à ses propres yeux. « Jacques, » dit-il au bout d'un moment, « nous allons à Paris. » L'enfant fit un geste qui signifiait clairement « « Où vous irez, j'irai. Je vous suivrai au bout du monde. » Raoul continua. « Savez-vous lire, mon enfant ?»«
Un peu, monseigneur. »«
Savez-vous écrire ?»«
Un peu aussi, mais très mal. »
Le jeune homme sourit de cette réponse naïve. Puis il demanda. « Combien y a-t-il d'ici au plus prochain village ?»«
2 lieues, monseigneur. »«
Vous êtes trop faible pour marcher jusque-là. Savez-vous monter à cheval ?»«
Oui, monseigneur. »
« Eh bien, montez Bayard, il est très doux. Je suivrai à pied. Un peu de nourriture vous rendra des forces, et aussitôt que j'en trouverai l'occasion, j'achèterai pour vous des vêtements et un cheval, sur lequel vous me suivrez. » L'enfant n'en pouvait croire ses oreilles. Il se laissa faire, cependant, mais convaincu qu'il était le jouet de quelque illusion décevante. Raoul et Jacques arrivèrent au village, et ainsi que l'avait prévu Raoul, un bon repas restaura complètement l'enfant. Tous deux se remirent en route.
Vers le soir, ils atteignirent une petite ville. Le premier soin de Raoul fut de se faire indiquer par son hôtelier la demeure d'un fripier et celle d'un maquignon. Chez le premier, il acheta une livrée d'occasion qui se trouva aller tant bien que mal au petit Jacques. Chez le second, il fit emplette d'un bidet de Normandie, hors d'âge, mais susceptible, s'il était ménagé, de fournir encore un bon service. Il paya les vêtements 3 louis, le cheval lui en coûta 8, et moyennant une modique somme, Raoul se trouva pourvu d'un petit laquais fort présentable. Car sous sa veste écarlate, sa culotte grise, son habit bleu à liséré d'argent et son chapeau galonné de même, Jacques avait vraiment fort bon air. Le lendemain, il n'y avait plus que 8 lieues à faire pour atteindre Paris. Raoul monta Bayard et Jacques enfourcha son bidet avec un orgueil facile à comprendre et avec une joie enfantine qui triomphait de son chagrin. Le fils du braconnier rompit le silence après 2 heures de marche. « Jacques, dit-il à l'orphelin, quand vous me parlerez, vous ne m'appellerez plus monseigneur, ainsi que vous le faites. »« Comment faudra-t-il dire ? Demanda l'enfant. « Vous me nommerez monsieur le chevalier. »« Oui, monsieur le chevalier, répondit l'orphelin. Et, continua Raoul, quand on vous demandera le nom de votre maître, vous répondrez que vous êtes au service du chevalier Raoul de la Tremblée. « Je m'en souviendrai, dit Jacques. » Raoul, on le voit, prenait un nom qui ne lui appartenait point. Mais en prenant ce nom, était-il bien coupable? Nous ne le croyons pas. Bien avant la nuit, Raoul arrivait dans la grande ville où l'avenir lui réservait une vie aussi accidentée que celle des Gil Blas et des Lazarilles, ces immortels aventuriers. Nous allons le suivre au milieu des catastrophes, des péripéties, des passions, des éblouissements, des intrigues, des joies et des douleurs de cette vie étrange.